Merci Daniel, sois béni. Bonjour Babette, bonjour Andreas, soyez tous deux bénis. Donc on va prier, après quoi on passera à la lecture. Bonjour à la sœur Bernadette. Alors prions. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment. On veut, Seigneur, te présenter ces instants où nous plongeons nos regards dans ta parole, que ce soit l'occasion, Seigneur, pour toi de nous nourrir, de nous abreuver, de nous rassasier de ta sainte parole et de ta sagesse. Merci, Seigneur, de prendre encore le temps ce matin pour nous enseigner, pour nous former et pour nous permettre, Seigneur, d'apporter dans nos vies les changements qui sont dus et nécessaires. Et qu'en toute chose, Seigneur, que tu répandes ta grâce sur moi qui partage en toute humilité ta parole ce matin, mais aussi, Seigneur, sur tous mes frères et sur toutes mes sœurs qui sont connectés en direct, mais aussi, Seigneur, ceux et celles qui se connecteront plus tard en journée ou même, Seigneur, à travers les prochaines semaines, voire les prochaines années, qu'une même onction déferle dans nos différents lieux et qu'une grâce, Seigneur, nous soit accordée. On te demande de bénir ton fils, le pasteur Giacomin, mon père, dans cette intervention qu'il a à l'heure même. Tu vois, Seigneur, ce temps où il est sous anesthésie générale, on te demande de garder ta main sur lui, de le protéger et aussi, Seigneur, de guider les mains du médecin, du cardiologue et de l'ensemble du corps médical. Continue à bénir notre frère Eric dans son rétablissement. On se réjouit, Seigneur, qu'il ait quitté les soins intensifs. Continue à l'aider, continue à le fortifier, non seulement lui, mais aussi l'ensemble de ses proches, dont sa maman Lise avec qui on est en contact. Que ta grâce, Seigneur, leur soit à tous et chacun accordée. Nous t'avons prié pour ta gloire et ton honneur, Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous le passage de ce matin. Josué 24, le verset 15, encore une fois. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je relis. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et la partie du verset que nous étudions aujourd'hui, c'est la section qui nous dit « Choisissez qui vous voulez servir ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. » Alors la première option, si Israël ne voulait pas servir Dieu, Josué leur disait « Vous allez devoir choisir. Si vous ne voulez pas servir Dieu, vous devrez, premièrement, comme première option, outre Dieu, servir les dieux que vos pères servaient au-delà du fleuve. » Quelques points qu'on va mentionner ce matin. Je fais juste grossir mon écran un peu. Là. Je pense que le point important ce matin, c'est deux termes. Le terme père, Ab ou Abba, lorsqu'on a sa forme plus longue, plus élaborée. Donc, Ab, Abbé ou Abba, qui veut dire la tête, le fondateur, le patriarche, l'ancêtre, le géniteur, mais aussi le patron. Donc, je répète les différentes significations pour le mot père, Ab, celui qui est à la tête, le fondateur, le patriarche, l'ancêtre, le géniteur ou le patron. De surcroît à cela, l'autre terme important pour nous ce matin, c'est le terme Elohim pour Dieu. Oui, très souvent, on appelle Dieu aussi Elohim, Mais le terme Elohim n'est pas nécessairement réservé strictement à l'éternel Dieu que nous louons et nous adorons. Ça pouvait être aussi mis, ça pouvait être utilisé, disons-nous, pour les différentes divinités que les peuples avaient à l'époque. Donc lorsqu'on parle du terme Elohim, la plupart du temps, c'est effectivement un terme au pluriel et qui veut dire les dirigeants, les juges, les anges ou les divinités. Je répète, les dirigeants, les juges, les anges ou les divinités. Et en regardant non seulement le terme Père, Ab, mais en regardant aussi le terme Dieu au pluriel, Elohim, on va faire ressortir ce matin quelques vérités de ce qui se passe dans nos vies lorsque nous refusons de servir Dieu et nous portons notre dévolu sur quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Alors voici le premier point que Josué va soulever avec le peuple d'Israël et avec son armée. Il est évident que la première, toute première proposition, c'est de servir Dieu. Nous avons été créés, nous l'avons dit, pour servir, mais plus encore, l'être humain a été créé. Je vais prendre juste une gorgée. L'être humain a été créé pour servir spécifiquement Dieu. Lorsque Dieu nous a créés, ce n'était pas dans le but qu'on serve quelqu'un d'autre. Ce n'était pas dans le but que nous puissions nous servir nous-mêmes ou que nous tournions notre dévolu vers une autre divinité. Le seul et lequel pour lequel ou le pourquoi nous avons été créés, c'était servir et servir Dieu, l'Éternel, le Créateur de l'univers, le seul et l'unique. Et je vous rappelle que Yéhovah, quand on parle servir l'Éternel, Yéhovah, l'Éternel, veut dire celui qui est et celui qui existe. Ça veut donc dire que, à la base, Josué, dans son approche du peuple et dans sa proposition au peuple, il dit, voilà, vous avez le choix. Soit vous servez celui qui est et qui existe, ou vous servez deux autres copies, de faibles copies, mais qui ne sont que des copies. Puisque si on dit qu'il est celui qui est et celui qui existe, ça veut donc dire que les autres ne sont pas et que les autres n'existent pas. Ça veut donc dire qu'à l'occasion, oui, il est vrai, nous pouvons servir des fabulations, servir des faussetés et des mensonges. Et Dieu disait à travers Josué, bien sûr, mais prenez la décision aujourd'hui. Allez-vous servir quelqu'un qui est vrai, comme l'Éternel des armées, ou allez-vous servir l'invention même de votre nature pécheresse, l'invention même du père du mensonge, qu'est le diable? Et ce matin, on a le même défi, on a la même question qui nous est lancée. Qui allez-vous servir? Si on ne juge pas approprié de servir l'Éternel, nous aurons malgré tout à servir quelqu'un. Et la question, c'est qui servirons-nous? Alors voilà ce qui se passe régulièrement lorsqu'on refuse de servir Dieu. On tombe soit dans la catégorie servir les dieux que vos pères servaient de l'autre côté du fleuve, ou on va tomber dans la deuxième catégorie qu'on verra demain, qui est servir les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous demeurez actuellement. Mais aujourd'hui, servir donc les dieux que vos pères eux-mêmes ont servi au-delà du fleuve. Une chose qui apparaît très régulièrement, c'est que lorsqu'on se détourne de Dieu, qu'on refuse de se tourner vers le Seigneur, une des choses vers lesquelles on se tourne très régulièrement, c'est vers ce que nos pères faisaient avant nous. Donc vers la tradition. Et soyons clairs, ce n'est pas parce que c'est une tradition que c'est mauvais parce que ce n'est pas Dieu, point à la ligne. C'est mauvais parce que ça ne cadre pas avec le plan de Dieu, ça ne cadre pas avec les écrits de Dieu, ça ne cadre pas avec ce que Dieu a proclamé lui-même. Mais très régulièrement, que ce soit par tout simplement une espèce de patriotisme mal placé, que ce soit tout simplement par une nostalgie mal placée, très régulièrement, lorsqu'on abandonne Dieu, on retourne vers ce que nos pères faisaient et qu'on appelle la tradition. Et le grand malheur avec la religion, c'est que la religion, très souvent, est une question de tradition. Très souvent, on va commencer à faire des choses, on va avoir des pratiques dans l'église traditionnelle, tout simplement parce que ça a toujours été fait ou parce que ça fait longtemps que ça a été fait. Et parfois, on ne va même pas se poser la question à savoir est-ce que ces choses-là cadrent avec la parole de Dieu ou pas. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous appelle à être comme l'église de Bérée. Les croyants de Bérée recevaient un enseignement, puis retournaient dans la parole de Dieu pour voir est-ce que l'enseignement que nous avons reçu cadre ou non avec ce que la Bible enseigne. Et malheureusement, lorsqu'on arrive face à la tradition, très souvent, on accepte la tradition sans même se poser des questions. Dimanche, on avait la présentation d'un bébé et j'expliquais comme quoi il n'est écrit nulle part dans la parole de Dieu de baptiser un enfant. Nulle part, nulle part, nulle part, vous ne trouverez la question de baptiser un enfant. Pourquoi? Parce qu'à la base, le baptême vient d'une décision où on reconnaît préalablement notre état de pécheur et on décide de se tourner vers Christ en implorant sa grâce et en reconnaissant qu'il est la seule source de salut pour nous tous. Et la démarche de salut se doit d'être personnelle. Ça ne peut pas être fait par quelqu'un à notre égard. Mon épouse ne peut pas gagner mon salut. Mes parents, et on était catholiques lorsque je suis né, et j'ai donc été baptisé en tant que bébé, mais la démarche de mes parents qui visait, selon la tradition, à faire en sorte que si je mourais, j'étais sauvé parce que partie prenante de l'Église, c'est totalement non biblique. Ce n'est pas fondé bibliquement. Le seul exemple qu'on trouve bibliquement parlant concernant des enfants, c'était tout simplement ce que la loi de Moïse appelait à faire, ce que Jésus lui-même a fait, et ce qu'on a fait avec Jésus aussi par la suite. Donc, lorsqu'un enfant avait 8 jours, on l'amenait au temple pour ce qu'on appelait la présentation au temple. Jésus a été présenté à la synagogue. Après 8 jours, on l'a amené et on l'a présenté, pas nécessairement à Dieu, parce que Dieu connaissait cet enfant, mais on l'a présenté à la communauté, à, on va dire entre guillemets, l'église juive de l'époque, où on a dit « voici un des enfants de l'église ». Et nous, en tant que croyants, on voit aussi le même exemple lorsqu'on amenait des enfants vers Jésus pour que Jésus prie pour ses enfants. Alors, lorsqu'on présente des enfants à l'Église aujourd'hui, on applique effectivement ce qui textuellement nous est enseigné. Malheureusement, la tradition a fait en sorte qu'on a commencé à faire le baptême des enfants, qu'on a perduré dans cette pratique et que malheureusement, bien des gens s'assoient sur cette fausse croyance biblique selon laquelle j'ai été baptisé en tant qu'enfant, donc je suis sauvé, et ne font aucun effort pour s'approcher de Christ, pour confesser leurs péchés et passer par ce processus qu'on appelle la nouvelle naissance. Le danger de la tradition du baptême, c'est de faire croire à qui que ce soit qu'en dépit de tes péchés, parce que alors que tu n'étais qu'un enfant, tu as été baptisé, tu es donc partie prenante du corps de Christ, tu es donc partie prenante de l'Église, tu es donc assurément sauvé. Le salut ne s'obtient que lorsque nous croyons et que nous confessons que Jésus est Seigneur. Mais tant que je n'ai pas confessé et tant que je n'ai pas cru pour moi-même que Jésus est effectivement le Seigneur, je ne peux pas être sauvé. Alors le malheur ici, c'est d'avoir ces traditions vers lesquelles on pourrait retourner, qui nous disent ceci et cela, mais qui ne sont pas cadrées par la parole de Dieu, qui sont à l'extérieur des pourtours de la parole de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, malheureusement, très souvent, on retourne vers ces traditions qui sont tout simplement des inventions d'hommes, qui sont tout simplement des fausses croyances très humaine. Et c'est le danger de la religion et c'est le danger de la tradition et de la religion. Lorsque On quitte Dieu très souvent aussi, on revient aux pratiques d'avant le Jourdain. Ici, lorsqu'on va parler les dieux que servaient vos pères de l'autre côté du fleuve, le fleuve, c'est le terme Nahar, N-A-H-A-R, Nahar, N-A-H-A-R, qui veut dire non seulement la rivière, le cours d'eau, la source d'eau, mais aussi l'étendue d'eau. Alors, ici, on peut avoir deux pensées. Ce soit les dieux qui ont été pratiqués par les pères qui sont décédés dans le désert pendant les 40 ans où ils étaient dans le désert. Ils ont rencontré des tribus étrangères. Certains ont commencé à adorer le veau d'or. Ils ont été punis pour ça. Il y a aussi les pratiques qui venaient d'Égypte qui ont peut-être été amenées aussi avec le peuple d'Israël, mais à un moment donné, il y a eu une coupure. Lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise sous Josué et Caleb, la Bible nous dit qu'ils sont passés par le Jourdain. Donc, toutes les pratiques qui étaient là avant le Jourdain, voire avant la mer Rouge, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ces pratiques idolâtres devaient être abandonnées. Et dans l'entrée au Jourdain, une des premières choses qui se passe en fait dans l'entrée à la terre promise après le passage du Jourdain, une des premières choses qui se passe, c'est qu'on rétablit notamment la pratique de la circoncision, qui était à la base la marque physique de l'appartenance au peuple de Dieu. Donc, je m'excuse. Donc, lorsque le peuple d'Israël est rentré dans la terre de Canaan, il a coupé avec toutes les pratiques passées, il s'est réidentifié avec Dieu, il s'est identifié de nouveau avec Dieu, il a recommencé à avoir les pratiques d'antan, avant l'esclavage et avant l'errance dans le désert, et ça a mis une coupure. Mais lorsqu'on revient en arrière, très souvent ce qui se passe, c'est qu'on revient à ces pratiques qui nous avaient été dites comme mauvaises, qu'on avait abandonnées, et on revient malheureusement aux pratiques d'avant Jourdain, avant la décision de se tourner vers Christ, avant la décision de s'associer à Christ, avant la décision de revenir, avant la décision plutôt d'appartenir à Christ et d'être enfant de Dieu. Donc lorsqu'on refuse de servir Dieu, une des conséquences, c'est que non seulement on s'éloigne de lui, mais qu'on revient à des pratiques que lui ne pouvait pas bénir et sur lesquelles il ne pouvait pas apposer son sceau d'approbation. Et je vous parle du retour en arrière parce que je l'ai moi-même vécu. Et je l'ai vécu exactement dans ce contexte de refuser de servir Dieu. Étant tout petit, à partir de l'âge de 8 ans, j'ai eu l'appel de Dieu sur ma vie. Je me suis levé un dimanche et je vous ai déjà expliqué comme quoi je me suis approché de mon père et j'ai dit « Quand je vais être grand, je veux être pasteur. » Et mon père n'a rien dit sur le coup. C'était un dimanche matin, on est arrivé à l'église et puis le pasteur Fontalvo vient nous saluer. Et mon père lui dit « Florent, quelque chose à te dire. » Et le pasteur Fontalvo me regarde et dit « Alors, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et je le regarde, comme j'ai dit à mon père quelques heures plus tôt, avec toute la sincérité de mon cœur de 8 ans, et je dis « Quand je vais être grand, je veux être pasteur. » Et les deux, le pasteur Fontalvo et mon père, qui n'était pas pasteur à l'époque, ont posé leurs mains sur moi et ont prié que ce désir ne me quitte jamais, qu'il puisse se fortifier. Aujourd'hui, près de 40 ans plus tard, ce désir est encore là, mais pendant un certain temps, ce désir m'a quitté. En fait, j'ai refusé ce désir. Pourquoi? Parce que je voyais le poids que je sentais qu'on mettait sur mes épaules en tant que fils de pasteur. Et puis, je ne voulais pas qu'éventuellement, si j'avais des enfants, ces mêmes enfants aient à vivre cette même pression que moi je ressentais à l'époque. Alors, j'ai dit à Dieu, vous rappellerez cette phrase, j'ai dit à Dieu, regarde mon dos parce que c'est la dernière chose que tu vois. Et je me suis éloigné en lui disant, je m'en vais assez loin pour que tu me laisses tomber avec ces histoires de te servir et avec ces histoires d'être un pasteur ou d'être impliqué dans l'œuvre de Dieu. Mais lorsque je quitte le Seigneur, la Bible est très claire, notre condition devient mauvaise. La Bible nous dit même que lorsqu'un démon a été délogé et qu'on se retourne contre Dieu, que notre état va être 7 fois pire. Et effectivement, lorsque je me suis éloigné de Dieu, je ne me suis pas éloigné pour rester neutre. Je me suis éloigné de lui et ma condition de pécheur et mon abandon dans le péché ou mon lâcher prise dans le péché a été beaucoup plus grande que ce que j'avais connu jusqu'à présent. Donc effectivement, lorsque on abandonne le Seigneur et lorsqu'on refuse de servir le Seigneur, dans la plupart des cas, on va se rendre compte que la personne à ce qu'on appelle une rétrogradation. Donc, elle va baisser dans sa vie spirituelle, évidemment, et va retourner dans une vie de péché. Et on revient donc aux pratiques qu'on avait avant notre passage du Jourdain. Quand on parle de Dieu ici, on va retourner au Dieu que servaient nos pères. Il y a 3 définitions qu'on nous donne de Dieu qui vont représenter des secteurs dans lesquels on vient à faire faillite au niveau de la foi lorsque nous quittons le Seigneur. On s'oriente vers ce que nos pères avaient comme pratique auparavant. On s'oriente vers les pratiques que nous avions avant de venir à Christ nous-mêmes. Et ce faisant, on s'oriente vers ces dieux. Et ces dieux, la définition de Elohim, va être parfois dirigeant. Donc, ce qui oriente notre vie va changer. Lorsque je refuse de servir Dieu et que je lui tourne le dos, donc à ce moment-là, Dieu n'est plus celui qui conduit ma vie. Puisque lui me dit, va devant et sers-moi. Et moi, je lui dis, non, je n'avancerai pas et je ne servirai pas. Donc, le leadership sur notre vie change. Plusieurs pensent que ce faisant, on reprend le leadership sur notre propre vie. Tu ne peux avoir que 2 leaders possibles et potentiels sur ton existence. Soit Dieu, soit le diable. Voilà pourquoi, et je l'ai mentionné hier, voilà pourquoi le verset va être très clair. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Soit l'Éternel ou les dieux de vos pères et ceux que les Amoréens louaient. Choisissez qui vous servirez, l'Éternel ou Baal. Choisissez qui vous servirez, l'Éternel ou Mammon. C'est pas comme si tu pouvais avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de choix, incluant un propre leadership sur ta propre vie. Non, c'est soit le leadership est exercé par Dieu, ou le leadership est exercé par le diable. Et c'est pour ça qu'il nous faut être très clair ce matin. Si tu entends la parole de ce matin, reçois cette parole. Comme quoi, regarde, si Dieu n'est pas ton maître, tu n'es pas plus le maître sur ton existence. Si Dieu n'est pas le maître de ta vie, c'est donc le diable qui est maître de ta vie. Alors, qui dirige ta vie? Qui est le dirigeant de ta vie? Dieu ou le diable? La deuxième chose, quand on prend la définition de Elohim, on va parler non seulement du dirigeant, celui qui conduit, mais on va parler aussi du juge. Le juge fait quoi? Le juge regarde une situation et y apporte un verdict, y apporte un jugement. Il prend ses valeurs et sur ses valeurs, il applique un jugement. Lorsqu'on parle qu'on va retourner loin de Dieu, très souvent nos valeurs aussi changent. Ce que Dieu déclarait péché, ben on a tendance effectivement à ne plus déclarer ça péché. Et on a tendance effectivement à prendre un système de valeurs qui est autre que celui de la parole de Dieu. On essaie de manipuler la parole de Dieu pour lui faire dire ce qu'on a envie d'entendre. Et voilà pourquoi Paul va dire à Timothée, dans les derniers temps, ce sera des temps mauvais. Et les gens se donneront une foule de docteurs, donc une foule d'analystes de la parole de Dieu, qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. L'important, ce n'est pas ce que Florent dit. L'important, ce n'est pas ce que le pasteur André dit. L'important, ce n'est pas ce que le pasteur Sergio dit ou tout ce qu'un tas de prédicateurs et d'enseignants disent. L'important, c'est que dit la parole de Dieu? Que dit la Bible? Et cette Bible-là, on ne peut pas lui faire dire n'importe quoi. On devrait rester à ce qui est scripturaire. On devrait retourner comme l'église de Béré et dire, est-ce que ce qui nous est enseigné est véritablement parole de Dieu? Est-ce que ça cadre dans la pensée théologique de Dieu, dans la pensée biblique de Dieu? Est-ce que ça cadre? Il y a bien des choses qui, avec le temps, deviennent une norme ou une normalité dans la société d'aujourd'hui. Et parce que ça devient une normalité, on pense que c'est correct. Et on va revenir sur cette question demain. Mais cette normalité-là, tu dois la juxtaposer à la parole de Dieu ou tu dois la soupeser avec la parole de Dieu. Alors, ces choses-là, ces pratiques, ces jugements, ces valeurs qui t'habitent sont-elles celles de la Bible? Sont-elles celles de Dieu? La Bible est cet endroit où on apprend à connaître Dieu et on apprend ce que Dieu aime, de ce qu'il déteste, ce que Dieu approuve, de ce qu'il condamne. Alors, est-ce que ton jugement de valeur, est-ce que ta liste de valeurs est en parallèle avec celle de Dieu? Est-elle au diapason plutôt avec celle de Dieu? Malheureusement, quand on abandonne Dieu, très souvent, et vous parlerez avec des gens qui ont expérimenté cet éloignement de Dieu, et vous allez vous rendre compte que nos valeurs tombent en décrépitude, nos valeurs tombent dans l'abandon et on se fait un nouveau code de valeur. Si j'étais Dieu, voici ce que je ferais. Mais tu n'es pas Dieu et je ne suis pas Dieu. Et ce que Dieu croit, ce que Dieu aime, ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, ce que Dieu demande est écrit ici. Et en tant que croyant, je dois donc m'assurer que quelles que soient mes valeurs, quelles que soient mes prises de position, elles cadrent avec la pensée de Dieu. Enfin, lorsqu'on parle de Elohim, pas dans le sens, encore une fois, de l'éternel, mais dans un sens des dieux de cette terre, on va nous dire que parfois ça veut aussi parler des anges et des divinités. Malheureusement, lorsqu'on tourne dos à Dieu, mais qu'on reste dans cet état de spiritualité, ou dire « mais je ne crois plus en Dieu » ou « je ne pratique plus la foi chrétienne, mais je suis quand même spirituel, j'ai quand même des pratiques spirituelles. » Lorsque tu t'éloignes de Dieu, tes pratiques spirituelles tombent dans la question des anges et dans la question des divinités. Très souvent, tu tombes dans une espèce de mysticisme. Et on voit beaucoup de groupes qui, à la base, étaient ancrés sur la parole de Dieu, qui s'en sont éloignés et qui, à travers cet éloignement, sont tombés dans des questions de mysticisme profond qu'ils ont en bout de ligne égarés. Encore là, l'importance de retourner à la parole de Dieu. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à toutes ces choses? Tu dis que tu as une pratique spirituelle. J'entendais quelqu'un qui parlait dernièrement comme quoi, oui, le Seigneur m'a fait sentir sa présence parce qu'il y a un bouquin qui est tombé de l'étagère. Et en fait, c'est le pasteur André qui me parlait de cette expérience-là que quelqu'un lui avait dit. Et la réponse du pasteur André, c'était, tout simplement, ton livre n'était pas bien placé. Tout simplement, il y a eu un coup de vent, puis ton livre est tombé. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de faire sentir sa présence avec un livre qui tombe? Est-ce que ça cadre dans le modèle biblique? Est-ce qu'il y a un exemple dans la parole de Dieu? Et là, les gens vont dire, « Ah oui, mais il y a l'ange qui descendait dans l'eau et qui secouait l'eau à la piscine de Bethsaida pour que le premier qui plonge soit guéri. » Mais quel était l'objectif ici? L'objectif de l'ange était de dire, voici, il y a un miracle qui s'approche, le premier qui fait. Donc, il y avait un appel, il y avait une mission, il y avait un ouvrage. Ce n'était pas tout simplement de dire, je vais te faire montrer que je suis là, je vais te faire sentir ma présence ou je vais te convaincre que je suis là. Dieu n'est pas supposé travailler dans la conviction. Dieu n'a pas besoin de te convaincre de quoi que ce soit. La Bible dit qu'il est là constamment, en tout moment, en tout lieu, en toute époque. Et toi, en tant que chrétien, aurais-tu besoin d'une preuve? As-tu vraiment besoin d'une preuve que Dieu est à tes côtés à ce moment même? As-tu besoin d'une preuve que Dieu est à tes côtés dans tes bons comme dans tes mauvais moments? As-tu besoin d'une preuve comme quoi Dieu est à tes côtés, que tu sois en train de pratiquer la justice de Dieu, tout comme lorsque tu es en train de pratiquer ce qui est infâme devant ses yeux? La Bible nous dit qu'il n'y a pas un endroit où nous pouvons nous cacher. Il n'y a pas un endroit où nous pourrions être hors de la portée et du regard de Dieu. As-tu besoin qu'il te montre qu'il soit là? Pourquoi? Lorsque David va dire, je n'ai aucune crainte de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. David n'est pas obligé de voir l'Éternel. Il sait que l'Éternel est là. Celui qui a besoin de voir, c'est celui qui manque de foi. Celui qui a besoin d'être convaincu, c'est celui qui ne marche pas par la foi. Et la Bible nous dit que le croyant, l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, va marcher par la foi. Et la foi, c'est de savoir que ce qui est écrit dans ce livre est parfaitement la parole de Dieu. Alors ne tombons pas dans ces histoires de mysticisme, retournons à « que dit la parole de Dieu ?» Et la parole de Dieu, on ne peut pas prendre un exemple précis de la parole de Dieu et en faire une règle générale. Il y a des choses qui se sont passées une seule fois dans la parole de Dieu et on ne le voit pas par la suite. Je parlais à l'occasion pour les gens qui veulent quitter une église et qui disent « Oui, mais le Seigneur m'a dit de faire comme Abraham. Je ne veux pas quitter mon église locale, mais le Seigneur me dit « Pars du pays de ton père et de ta mère et va là où je te dirai. » Encore là, Abraham avait une mission particulière qui était de créer un peuple, de fonder un peuple pour l'Éternel. Abraham n'était pas appelé pour se greffer à un autre peuple. Abraham n'était pas appelé pour aller se greffer à une autre famille. Abraham allait créer sa propre famille, son propre peuple. Alors on ne peut pas prendre l'exemple d'Abraham pour dire « Dieu m'appelle à quitter une église ». Alors, qu'est-ce que je dis ce matin? Je dis que très régulièrement, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, il y a des dangers qui nous guettent. On retourne à une tradition irréfléchie, non fondée bibliquement, non jugée par la parole de Dieu. On retourne à des pratiques qu'on avait abandonnées lorsqu'on est venu au Seigneur, mais qu'on réadopte, on va dire qu'on adopte de nouveau, donc une vie de péché qui redevient norme pour nous. On change dans ce qui conduit nos vies, dans les objectifs qu'on a. Si autrefois c'était l'avancement du royaume de Dieu, lorsqu'on quitte le Seigneur éventuellement, effectivement nos objectifs, nos orientations vont changer. On va changer notre règle de valeur. Nos jugements de valeur vont changer. On va être permissif par rapport au péché, permissif par rapport à la volonté humaine au lieu d'avoir la primauté de la pensée et de la volonté de Dieu. Et enfin, on va très souvent tomber dans une espèce de mysticisme avec un tas de pratiques qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas appuyées par la parole de Dieu. Alors voilà ce que nous avions pour nous aujourd'hui. Demain, on va voir la deuxième partie. Aujourd'hui, on a vu cette partie, les choses que vos pères adoraient ou les dieux que vos pères vénéraient autrefois. Et là, demain, on va aller où les dieux qu'adoraient les Amoréens dans le pays dans lequel vous êtes maintenant. Alors voilà, on va prier que Dieu bénisse cette parole et qu'elle nous pousse, chacun d'entre nous, à réfléchir. Seigneur, nous ne voulons pas nous éloigner de toi. En tout cas, je ne peux prier que pour moi-même, mais je sais, Seigneur, qu'il y a des frères et des sœurs qui nous écoutent ce matin qui ne veulent pas s'éloigner de toi. Malheureusement, très souvent, on fait rentrer dans nos vies des choses qui ne viennent pas de toi, des choses qu'on n'appuie pas sur la parole de Dieu, des choses qu'on ne va pas juger d'après la parole de Dieu, des choses pour lesquelles on n'a pas cherché la preuve biblique de la véracité d'une chose. On les prend pour acquises tout simplement parce que jadis nos pères les pratiquaient ou parce que la tradition nous a enseigné ainsi. Mais il arrive un moment, Seigneur, où de l'enfant qui suit de façon irréfléchie, on devient, Seigneur, des personnes qui s'assoient, qui se posent des questions et qui cherchent dans ta parole la source de la vérité dont nous avons besoin. Alors je prie que mes sœurs et mes frères qui m'ont écouté ce matin fassent avec ce que j'ai enseigné la même chose que l'église de Béré aurait fait si je les avais enseignés. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent aller te consulter, mais qu'ils puissent aussi aller consulter premièrement ta parole afin de trouver appui afin de trouver, Seigneur, si c'est le cas, une contradiction par rapport à ce que j'ai dit. Mais Seigneur, que ce soit ce que j'ai dit, ce que j'ai exprimé aujourd'hui, ou peu importe quel autre enseignement, Seigneur, je suis conscient que c'est ta parole qui prime. Alors je m'humilie devant toi, je m'abaisse devant toi, et j'élève, Seigneur, devant mon frère et devant ma sœur, ta parole. Que celle-ci, Seigneur, soit notre source de réflexion, notre guide dans nos comportements, qu'elle soit la base des valeurs qui doivent nous animer. Seigneur, qu'on n'abandonne pas ta parole au profit de ce qui était jadis, de ce que la tradition nous a octroyé ou nous a donné à travers les siècles, ou que ce soit, Seigneur, aussi à certains mysticismes qui ne soient pas appuyés par ta parole. Je prie, Seigneur, que ta parole nous soit révélée, que ta parole nous éclaire, que ta parole nous instruise, et que cette parole soit effectivement une lampe sur notre sentier, qu'elle soit effectivement une lumière à nos pieds, et qu'en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi, et strictement et uniquement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le merveilleux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, juste saluer quelques personnes. On est mercredi aujourd'hui. On vous rappelle que ce soir, il y a l'étude biblique avec le pasteur Sergio. C'est donc à 19h, heure de Montréal, bien entendu. Donc, je remonte juste un peu pour voir s'il y a des gens qui se sont connectés depuis tout à l'heure. Je crois que la dernière que j'ai saluée, c'était la sœur Bernadette. Donc, on va voir qui d'autre s'est connecté, que je peux voir, identifier, du moins. Donc, bonjour à Tina et à Christophe. Bonjour à Charlotte. Bonjour au frère Frédéric qui nous écoute depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Soyez bénis. Bonjour à Consuelo et à Jean. Bonjour à Lisandra. Bonjour à Ramon et à Evelyne. Bonjour à Myriam et à Donald. Bonjour à Andrés et Samantha. Tous les autres, soit je vous ai nommé, sinon je ne vous vois pas. On rappelle les anniversaires aujourd'hui. La sœur Marie-Marc Plissin, joyeux anniversaire. Ma sœur. Et puis le frère Claude Cinéas. Salut Claude, que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire à toi aussi. Alors sur ce, rappel, ce soir 19h avec le pasteur Sergio, étude biblique. Sinon, on se retrouve demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.